la nichée des sirènes. On ne sait pas exactement, précisément, comment se reproduisent les sirènes. Plus malin que moi me le nous dira. Je l'assurais pourtant, c'est qu'il y en a de vieilles, ridées comme des sorcières, et de jeunes, avec leurs petits qui nagent autour d'elles, et viennent téter à la mamelle. Des navigateurs ont vu ça. Mais par exemple, personne n'a jamais vu de mâle. Peut-être qu'ils habitent les grands fonds, et que, à la manière des poissons, sans jamais connaître leur femme, ils se rapprochent du bord que pour frayer. Intéressé par ce début, je m'assis sur un coin du bateau à moitié enfoncé par la proue dans le sable et momentanément transformé en cuisine. D'abord, continua mon interlocuteur, sans s'interrompre de débiter par franche rondelle sur un large plat de liège pareil à un bouclier sanglanté, les roucos et les poissons Saint-Pierre réservés pour la bouillabaisse. D'abord, croyez-vous aux sirènes? Oh, si je crois aux sirènes, mais autant que vous, pauvre Marc. Faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce que les gens racontent, puisqu'elles continuent à faire parler d'elles, et puisque nos anciens leur dressaient des hôtels il y a plus de 4 000 ans. 4 000 ans, vous badinez, c'est pas le moins du monde. Même si jamais la fortune me tombe du ciel et n'arrive, ce qu'en rêvent tous les poètes de posséder un yacht comme Gordon Burnett et Rothschild, ou même une simple bargane, Taran, je vous en montre, capitaine, et nous faisons ensemble un petit voyage à Paestum. Où diantre, prenez-vous ce port de mer? Mais mon Dieu, presque à 2 pas d'ici, passez Naples en Grande Grèce. Vous me montrerez les sirènes? Oh, je n'oserais le garantir seulement. Sur ce légendaire rivage, autrefois chantaient les poètes, saturant l'air de senteur dont se pâmaient les vierges, d'interminables chants de rosiers se coudraient de toutes foilants, fleurissaient, et ce qui est plus aujourd'hui qu'un marais fiévreux, planté de buples et semé de ruines. Je vous montrerai, tout près du temple de Neptune, à l'angle du rempart, fait d'énormes blocs dégrossis, au-dessus de la porte géante, un bas-relief traîné dans la pierre, alors que ni Marseille ni Rome n'existaient, et représentant Matron Marc, une sirène qui cueille une rose. Patron Marc, du coup, laissa tomber son couteau et, soit dit en toute modestie, d'abord, je fus hypnotisé par l'ampleur vraiment excessive de ma phrase. Présomptueuse erreur. Le patron Marc, quoique lettré à sa façon, s'attache plutôt au fond des choses qu'aux vaines curiosités du style. « Oui, une sirène qui cueille une rose !» s'écria-t-il. Et cela se passait au fond il y a 4 000 ans. Mais alors, c'est comment? C'est exactement comme dans mon histoire. Quelle histoire? Eh, pardi, l'histoire que j'avais commencé de conter. Patience. Le temps seulement de remettre un peu de braise à l'Ivoiron, et je vais vous dire le fait, tout en ayant l'œil sur ce que ma bouillabaisse ne prenne pas mort aux dents. Voici donc l'histoire du patron Marc, aussi fidèlement reproduite que possible. Puisque vous croyez aux sirènes, vous ne serez pas étonné d'apprendre que voici déjà pas mal de temps un douanier qui faisait sa ronde vers la pointe des rochers roux en surprit toute une nichée. Vilain endroit, les rochers roux. Quoique vous ayez le pied solide et quoi qu'on puisse admirer de leur crête un horizon superbe, je vous conseillerais pas d'aller y flâner un jour de vent d'est. Rien que des rochers nus, polis, reluisant de sel craché par les vagues, car la mer, pour peu qu'elle soit irritée, pousse jusque-là ses embruns. Oh, vu du large, au contraire, vous prendriez, vous juriez un pays de rêve. Partout, des trous, des grottes moussues, dans le mur à pic du porphyre, et partout des calanques remplies d'eau bleue, si resserrées et si profondes que lorsque vous levez la tête, le ciel apparaît comme un ruban. Chaque calanque a tout au fond sa petite plage de sable où une barque peut aborder. Disposition naturellement favorable à la contrebande. C'est dans une de ces calanques qu'un soir de clair de lune, ayant entendu des voix et croyant pincer des contrebandiers, le douanier, caché à plat ventre et se cramponnant au rocher, aperçut d'en haut les sirènes. Elles étaient quatre, une d'un certain âge, déjà, mais belle encore, qui semblait la mère, et trois autres, dont la plus jeune, boudeuse et... Sa mère, en effet, la grondait, lui reprochant d'être sortie de l'eau en plein midi, malgré sa défense, et d'avoir joué sur le sable au risque de voir ses écailles ternies par le soleil brûlant. Mais le sable est si tiède et si doux, soupirait tout bas la sirénote. Et puis j'avais si grande envie d'atteindre cette fleur bleue poussée là-haut, dans cette fente. Une fleur bleue, reprenait la mère, comme si les parterres sous-marins n'ordaient pas à foison parmi l'algue et les madrépores. Des milliers de fleurs vivantes, nuancées de couleurs plus belles et qui, si elles fleurissent, elles flétrissent jamais. Sans compter le danger auquel on s'expose, aussi imprudemment, à cueillir ces fleurs terrestres, de devenir pareilles aux femmes. Et la virginité est partie, perdue, de subir la brutale caresse des mortels. Après quoi, pour la centième fois peut-être, car les sirènes bâillaient, elle lui redit un vieux conte du temps jadis, où l'aventure d'une sirène qui, de la sorte, métamorphosée, fut impératrice, aima et mourut avant ayant respiré une rose. Si bien que, depuis, la petite sirène ne pensa plus qu'à respirer un jour une rose au risque d'aimer et de mourir. Et de son côté, le douanier, lequel était hardi garçon, ne pensa plus qu'à la sirène. Chaque fois que son service lui permettait, par tous les temps et même la nuit, il retournait rôder au rivage, seulement à cause de l'hiver peut-être, les sirènes ne se montraient pas. Alors il lui vint une idée. C'était d'apporter quelques paniers de terre au creux de la calanque, dans un coin abrité de l'écume et des vents, et de construire un jardinet comme s'en construisent les douaniers à l'entrée de leur maison neuve. Puis, il y planta un rosier. Et quand le printemps reverdit et que les rameaux jetèrent fleurs, un matin, auprès de son rosier, il trouva une mignonne femme nue, blonde, une rose à la main, et qui paraissait endormie. Ayant reconnu la sirène, il l'enveloppa de son manteau d'uniforme et la porta à sa cabane. Un an durant, ils furent heureux. Elle avait pris goût à sa vie nouvelle et n'avait l'air aucunement de se languir. Mais au bout d'un an, jour pour jour, ou pour mieux dire, heure par heure, comme le douanier était en train de suivre, après sa tournée du matin, les trois sentiers qui couronnent le haut des calanques, il y imagina de loin entendre chanter les sirènes. Puis ce fut un plaintif cri d'adieu, le bruit d'un corps tombant à la mer, et arrivé chez lui, il trouva la cabane vide. Le varech du lit était encore chaud, et sur la planchette qui servait de table, on avait laissé en manière de souvenir un collier de corail, de coquilles et de perles fines, lié avec ses fils tenaces, paris à la soie, dont se servent les grandes marques pour amarrer à leur rocher. Le douanier ne se consola pas. On dit même qu'il se mit à boire et fit une mauvaise fin. « Car, voyez-vous, » conclut le patron Marc, « une sirène reste toujours sirène. Et, née pour la perdition des hommes, quel que soit l'amour qui la consume ou qui la tienne, elle regrette toujours la mer. » Maintenant, patron Marc verse la bouillabaisse. Mais insensible aux appétissantes vapeurs montant de ces tranches souffranées, un long moment encore je suivis leur rêverie, cette antique tradition qui, reconnaissable malgré tout sous son travestissement populaire, m'apportait alors en Provence, par-dessus l'azur de nos mers latines, un parfum des roses de Paestum.